Lionel Nakache, il est bilingue, figurez-vous. Neurologue brillantissime, chercheur, il étudie, il soigne le cerveau depuis des années. En pleine révolution des neurosciences, le cerveau féminin est quoi, 10% moins gros et moins lourd que le cerveau masculin à peu près?
Si on se réfère au poids et, au, ouais. et à ses formes, oui, mais en fait ces paramètres n'ont pas d'importance parce que vous savez,
j'allais vous dire, Lionel Nakache,
ne dépend pas du poids du cerveau.
Oui, parce que le nom de votre femme qui a été déterminante dans cet ouvrage de vulgarisation est écrit en beaucoup plus petit.
Mais je me révolte contre la taille de ce nom.
Révoltons-nous donc, vous nous rassurez, et il n'y a pas de neurosexisme chez vous?
Bah écoutez, je pense pas, mais vous savez qu'il faut tout à fait se méfier de ça parce qu'en général, lorsqu'on affirme ne pas être soi-même acteur de neurosexisme, en général, on est le plus aveugle à notre propre sexisme.
C'est très mauvais signe.
Voilà, donc j'essaye de ne pas l'être, j'espère que je ne le suis pas.
Le cerveau n'est pas sexué, donc.
Le cerveau n'est pas, c'est-à-dire que sur une IRM, on ne peut pas deviner votre sexe, mais par contre, dans votre fonctionnement psychologique, il y a des éléments
émotionnels,
sociaux, oui. etc.
Très bien. Alors, votre portrait, réalisé par Marc-Antoine de Porrette, et ensuite, eh bien, on parle cerveau, tout simplement avec vous.
En tapant Lionel Nakache sur internet, on vous découvre toujours derrière vos lunettes, barbe de 3 jours et cheveux ébouriffés, le prototype du parfait chercheur. Vous venez au monde à Sarcelles il y a 49 ans. Après l'école normale supérieure, vous enchaînez avec médecine et vous spécialisez dans la neurologie et les neurosciences cognitives. En 2002, vous soutenez une thèse intitulée « La perception subliminale des nombres, propriétés psychologiques et imagerie cérébrale fonctionnelle de processus cognitif inconscient ». On l'aura compris, vous utilisez à bon escient les 100 milliards de neurones que la vie offre à tout être humain. Devenu professeur de physiologie à la Pitié-Salpêtrière et chercheur à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, vous publiez plusieurs ouvrages. Le nouvel inconscient, Perdons-nous connaissance ou encore De quoi prenons-nous conscience. Vous remportez aussi de nombreux prix. L'été dernier, vous présentez sur France Inter des chroniques sur le cerveau que vous publiez aujourd'hui dans ce livre, Parlez-vous cerveau.
Ces 100 milliards de neurones ne sont pas posés les uns à côté des autres, silencieux, immobiles et interdits, comme l'armée des soldats en terre cuite de l'empereur Qin, enterrés depuis plus de 2000 ans. Nos 100 milliards de neurones sont organisés en réseaux complexes, dynamiques et vivants qui n'ont de cesse de communiquer.
On y apprend que, contrairement à une idée reçue, nous n'utilisons pas seulement 10% de notre cerveau, mais bien la totalité, nous voilà rassurés, et que ce cerveau ne vit jamais au présent et a la capacité de s'adapter à tout. Vous nous offrez aussi une très belle définition du souvenir, mélange de passé et de futur, coloré par le présent. Il y est aussi question des maladies du cerveau, Alzheimer, Parkinson, tumeur, épilepsie, une liste au milieu de laquelle on préférerait slalomer, mais qui, comme vous le rappelez, concerne actuellement une personne sur 8 en Europe. Lionel Nakache, pourquoi connaître le fonctionnement de notre cerveau stimule-t-il autant vos neurones?
Pourquoi entre tout le cerveau, après tout, c'est vrai?
Pourquoi s'intéresser?
Entre tout, ça.
Bah, peut-être d'abord pour moi, ça m'intéresse. Bon, en voyant ça, j'ai l'impression que je suis mort.
Muséifié, voire incroyable. Mort.
Oui, c'est ça. Ouais. Fait pleurer presque. Okay. Mais non, alors pourquoi le cerveau? Parce que je pense, de manière extrêmement décomplexée aussi, hein, c'est que connaître son cerveau, mieux connaître ton cerveau, ça s'inscrit dans une tradition qui est même en amont des neurosciences, qui est celle vraiment de la connaissance de soi, hein, du connaître à toi-même de Socrate, du ose connaître de Kant, tu sais. Eh bien, c'est un chemin supplémentaire. C'est pas un chemin qui se substitue à la philosophie, à l'introspection, à d'autres modalités de connaissance de soi, mais c'est une modalité absolument unique parce que dès qu'on rentre dans les rouages de notre mémoire, de notre subjectivité, de notre conscience, la manière de laquelle nous percevons le monde, eh bien, savoir comment cela se joue en nous à notre insu, ça nous permet de gagner en lucidité sur nous et donc peut-être de se rapprocher de ce que peut être la liberté d'un être humain. Ouais. C'est une des raisons. Là.
Parce qu'effectivement, ce n'est pas la rate, c'est la tour de contrôle fondamentale de l'individu. Et vous dites, ce qui empêche de comprendre, c'est la barrière du langage. Qu'est-ce que vous entendez par là? D'où se parle le cerveau?
Oui, et c'est ce qu'on a conçu, comme vous le disiez, avec ma femme, Karine. Et en fait, en réalisant, c'est elle qui a la première à réaliser ça. C'est qu'il y a d'un côté des connaissances sur le cerveau, des connaissances scientifiques. Et ces connaissances, elles sont formulées par des scientifiques, des chercheurs, qui ont besoin d'élaborer un langage avec, qui peut sonner comme un jargon de l'extérieur, un langage qui est rigoureux, un langage qui n'est pas là pour opérer comme une barrière, comme un mur contre les non-experts, mais qui est là pour formuler un discours explicite des concepts originaux. Et du coup, on se rend compte que accéder aux connaissances du cerveau qui intéressent tout le monde, comment marche ma mémoire, ma subjectivité, et bien souvent on est gêné parce qu'on bute sur les mots qu'on ne connaît pas, et un peu comme ce qui se passe quand on veut accéder à une civilisation, on a besoin d'apprendre une langue étrangère, et peut-être que l'intérêt c'est de se dire, après tout c'est pas plus difficile d'essayer de rentrer dans les neurosciences que de s'intéresser à l'italien et d'apprendre l'italien ou d'apprendre l'anglais parce qu'on est motivé pour le faire.
On va parler du cerveau en italien maintenant, on va rire. Bon, Benjamin.
Qu'est-ce qui reste à connaître du cerveau? Beaucoup de choses. À combien vous évaluez le pourcentage de connaissances du cerveau?
Alors, si je pouvais évaluer le pourcentage, c'est que j'aurais déjà une vue
globale. Une vision globale.
Les zones d'ombre, elles sont importantes.
Sérieusement, et souvent quand on dit ça, ça peut paraître un peu politiquement correct, etc. On connaît beaucoup plus de choses aujourd'hui qu'il y a 20 ans, c'est évident. Ouais. Et c'est aussi pour ça que les neurosciences s'invitent dans la société. Mais en fait, à chaque fois qu'en science, pas seulement en neurosciences, vous découvrez quelque chose de plus. Donc vous élargissez le périmètre de la connaissance. En même temps, c'est comme si vous montiez sur une montagne et vous voyez tout un horizon que vous ne connaissez pas. Mais vous ne saviez pas que vous ne connaissiez pas ça. Donc bizarrement, ça peut paraître bizarre quand on n'est pas expert, mais plus on avance dans ce domaine, moins on a l'impression de savoir quelque chose.
Lionel Nakache, l'allongement de la durée de la vie fait que dans nos sociétés, le vieillissement du cerveau qui conduit à des maladies dégénératives comme Alzheimer est quelque chose qui rend les gens très anxieux, très inquiets. Les gens se disent ça risque de nous frapper. Où en est-on sur la recherche de solutions, par exemple, en ce qui concerne cette maladie?
Eh bien, pour cette maladie, très précisément, il y a énormément de progrès sur, c'est comme un puzzle. Il y a plein de pièces du puzzle qui commencent à s'éclaircir, mais clairement, on n'a pas encore, ça va aussi peut-être vous étonner, une question simple, quel est le mécanisme de la maladie d'Alzheimer? On ne le sait pas.
On ne le sait pas.
Il y a plusieurs candidats. C'est-à-dire, on sait des choses. On sait par exemple qu'il y a une accumulation de matériel protéique, différents types de protéines dans différentes structures cérébrales qui vont conduire à la mort des neurones. Mais maintenant, la question, c'est le primum bovin. C'est pourquoi ça commence comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Et pour vous donner un exemple, une des pistes qui est poursuivie, ce n'est pas du tout mon domaine, mais ça m'intéresse évidemment, et comme neurologue aussi, une des pistes, d'après moi, les plus originales, il y a une classe de maladies, vous savez, qu'on appelle les maladies à prions. Vous vous souvenez, l'encéphalopathie de la vache folle, eh bien, le Creutzfeldt-Jakob, maladie extrêmement rare.
Ça pourrait être lié.
Eh bien, ça pourrait être lié parce que dans les deux cas, on voit quoi? On voit qu'il y a des neurones qui meurent par l'accumulation de matériel protéique. Et ces protéines, elles évoluent un peu, si vous voulez, comme dans un film de zombies. C'est-à-dire qu'elles rentrent dans une région du cerveau. Et quand elles rencontrent une protéine normale, elles la transforment en protéine anormale. Et donc, elles sont deux maintenant. Et il y a ce phénomène de contagion protéique. Donc, ça pourrait être une forme de maladie infectieuse protéique.
Mais donc, c'est une hypothèse.
C'est une hypothèse. Mais pour vous dire, on en est là, on ne sait pas encore bien. Mais pour autant, chaque jour, vous avez une masse de connaissances sur ces maladies dégénératives, pas que les d'Alzheimer, la maladie, ce qu'on appelle la DFT, la démence frontotemporale, la maladie à Cordelevi, etc. Donc, et évidemment, quand on est du côté de la médecine, on cherche des solutions. On n'a pas encore de solution suffisamment forte, mais ces progrès existent.
Alors, on va se rabattre du côté de la petite enfance, de l'optimisme et peut-être de l'espérance, avec l'éducation, Nadia.
Oui, parce que les neurosciences,
liées au cerveau.
Ouais, les neurosciences, c'est très à la mode à l'école, pas dans les cours de récré, mais dans l'esprit de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Il est convaincu qu'elles peuvent apporter beaucoup au système éducatif français. Il l'a prouvé d'ailleurs en créant très vite un conseil scientifique de l'éducation nationale qui est dirigé par un spécialiste très renommé qui s'appelle Stanislas Dehaene, c'est ça, qui est professeur au Collège de France. Alors la neuroéducation, pour faire très simple, parce que c'est compliqué, c'est partir du fonctionnement du cerveau de l'enfant pendant la lecture, le sommeil, les apprentissages, etc., pour organiser les apprentissages à l'école. Un exemple concret, par exemple, dans une classe de tout petit, pour aborder le chiffre 3, on va montrer 3 pommes à un enfant, puis on va simplifier, donc là on est dans quelque chose de très concret, on va simplifier, les 3 pommes deviennent 3 traits, puis ça devient un chiffre ou un mot, c'est bien ça. Alors c'est très intéressant, ça a l'air très intéressant, mais est-ce que c'est pas une approche un peu trop scientifique de l'école et de l'enfance? Est-ce qu'on peut pas le redouter, ça?
Alors écoutez, deux choses. D'abord, je trouve que je suis convaincu que le fait d'utiliser des connaissances de neurosciences dans l'éducation, il y a une rencontre, il y a un rendez-vous possible qu'il faudrait qu'on ne rate pas.
C'est déjà fait d'ailleurs.
C'est déjà fait, ça se met à vous parler de Stanislas, je connais très bien, c'est un ami, j'ai fait ma thèse avec lui, Jean-Michel Blanquer, j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'échanger avec lui. Je ne suis pas dans ce conseil scientifique, je ne suis pas spécialiste de l'éducation, mais ma conviction, c'est qu'on vit une période où il peut y avoir une rencontre féconde. Et il faudrait ne pas rater ce rendez-vous. Et pour ne pas le rater, justement, il ne suffit pas de lire mon livre, c'est pas ça dont ce que je veux dire, mais il ne faut pas se tromper, en fait, il ne faut pas tomber dans le fantasme. Ouais. Et les deux écueils du fantasme, c'est de se dire, comme pédagogue, j'ai peur des neuroscientifiques qui vont venir prendre ma place, et en fait, les neuroscientifiques ne sont pas des pédagogues. Et d'après moi, si ce rendez-vous réussit, c'est que les éducateurs, les pédagogues restent dans leur fonction, et même ils peuvent inspirer les neuroscientifiques, et qu'il y a une sorte de dialectique d'échange. Et que les neuroscientifiques, à l'inverse, puissent s'inspirer.
Pas de concurrence entre pédagogues.
En tout cas, une émulation positive, elle est possible. Ça ne marchera peut-être pas, mais je pense qu'il y a un rendez-vous important.
Alors, ces mêmes enfants, on nous dit qu'ils seront moins intelligents que nous. Vous avez vu qu'il y a une étude norvégienne qui dit que le QI baisse. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un fantasme?
Alors, ce qui est vrai, il y a une chose dont on est absolument certain, parce que vous allez dire, il n'arrête pas de nous dire qu'on ne sait rien.
C'est vrai.
Il y a une chose dont on est certain, c'est qu'il y a un effet qu'on appelle l'effet Flynn. FLY2N, c'est le nom du chercheur qui avait labellisé comme ça cet effet, c'est que si, depuis qu'on a des études de QI sur des populations très larges, notamment dans des pays occidentaux industrialisés, eh bien ce qu'on a, c'est qu'on voit que entre les années 50 et les années 80, en 30 ans, il y a eu un gain de 20 points de QI, plus de 20 points de QI. Ça, oui, c'est une certitude, on le sait.
Donc on peut se rassurer.
Ah non, alors c'est pas. C'est qu'on sait déjà qu'on a trouvé des mesures et les facteurs explicatifs les plus probables, c'est que la nutrition s'est améliorée,
oui, alimentation,
les facteurs de santé et les conditions de vie, mais aussi les méthodes d'éducation, l'accès aussi, disons, la massification de la scolarisation dans tous ces pays, dont le nôtre. Donc ces aspects-là, ils sont certains. Alors maintenant, ensuite, le débat, oui, c'est qu'aujourd'hui, ça n'augmente plus. Alors ça augmente plus, soit peut-être parce qu'on est arrivé un peu comme les footballeurs,
du cerveau,
voilà, comme les 10 secondes du 100 mètres, c'est qu'on est arrivé un peu, et c'est une des questions. Et puis vous savez, imaginez mathématiquement, quand vous avez une fonction, vous êtes arrivé au plafond, et bien d'une année à l'autre, vous allez tourner autour de la moyenne, donc des fois ça baisse, ça monte, mais en fait, c'est, alors on ne sait pas, ça c'est la partie qu'on ne sait pas totalement interpréter, on aura vraiment des idées claires dans 10 ans. Est-ce que
on
dans
pas
10 ans,
recul,
on voit qu'il y a une pente, ou est-ce qu'en fait on a vraiment saturé, vous voyez. Mais il faut vraiment avoir à l'esprit que d'une année à l'autre, aujourd'hui, les variations qu'on mesure, c'est de l'ordre de 0,3 points de QI en moyenne.
Non, parce que les tablettes, ce sont des outils d'intelligence, ce ne sont pas nos enfants. Est-ce alors, que ça les distrait? Vous dites que oui, ça peut être une source.
Vous alertez sur l'apprentissage, oui, à cause peut-être de ces messages
aussi,
qui arrivent et qui
font que là aussi, et pour ne pas être dans une posture aussi de fantasme, il faut voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ce qui est d'absolument certain, c'est qu'on a beaucoup gagné avec le monde numérique. Mmh. Énormément de choses. Par exemple, le fait de savoir qu'on peut accéder à une information dont on n'a pas l'accès immédiatement, et on sait, sans avoir besoin de la stocker nous-mêmes, on peut se projeter il y a 6000 ans, et un peu plus tard, quand l'être humain invente ça, invente l'écriture et la lecture, c'est en fait l'invention de la première prothèse cérébrale. C'est déjà une prothèse Wi-Fi, hein, c'est sans fil, mais c'est qui revient à dire « je vais stocker des pensées, du matériel symbolique en dehors de mon cerveau et savoir que je pourrais le consulter ouais. ». Et quand on a eu ces développements de l'écrit, on s'est posé des questions. Est-ce que la mémoire humaine va se dégrader, etc.
Oui, est-ce qu'on a perdu de la mémoire, justement, parce qu'on a besoin de rien retenir aujourd'hui?
On change de style. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a moins besoin d'apprendre une rhétorique de 6 heures qu'on va déclamer, sauf si on est comédien ou qu'on fait un exercice particulier.
Voilà, je voulais vous demander où était l'âme, si elle était dans le cœur, comme pensait Hippocrate, ou dans le cerveau, si comme pensait Aristote, mais on n'a plus le temps.
On n'a plus le temps.
Et vous répondrez dans un deuxième ouvrage où le nom de votre femme sera en plus gros que le vôtre. C'est un engagement, Lionel Nakache, absolument. Merci d'être venu parler cerveau. C'est vrai qu'on est bilingue. Enfin, on croit qu'on est bilingue pendant 10 minutes parce que vous êtes là. Merci.